Alors qu'il a failli disparaître il y a 3 ans, le magazine têtu défenseur de la cause et de la culture homosexuelle est aujourd'hui en forme, et ce, grâce à un repreneur pas avare d'idées ni d'ambitions. Albin Servian a l'intention de réitérer l'exploit avec un nouveau magazine qu'il vient de racheter. Il va l'annoncer en exclusivité dans Culture Média. Et pour cela, il a créé 1-0 Média, plateforme dédiée à des marques médiatiques fortes, consacrées à divers modes de vie, des médias lifestyle, comme on dit. Un pôle qui se revendique partie prenante à travers le magazine têtu dans cette journée internationale de la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie et contre la biphobie. Bonjour Albin Servian.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Je le disais, vous avez racheté le magazine têtu il y a 3 ans alors qu'il était donné pour mort ou moribond. Vous lui avez donné du souffle. Comment vous y êtes-vous pris ?
Bah, comme souvent, de toute façon, sur des médias, ça commence par une équipe de rédaction de qualité. C'était le cas avec Romain Burel, qui est directeur de la rédaction de Tétu, que j'ai rencontré il y a plus de 3-4 ans. Voilà, un projet de ce style, ça se relance facilement à partir du moment où on a du bon contenu. C'était le cas sur Tétu, et c'est le cas sur le magazine dont on va parler juste après.
Mais vous avez également diversifié les activités autour de Tétu.
Ouais, je pense que c'est voilà, Tétu a 25 ans en plus cette année, et de nos jours, je pense que il faut développer d'autres activités autour de la marque. Il y a plein de façons de parler de diversité. On le fait au travers d'un magazine, on le fait au travers d'un site web qui fonctionne très très bien, mais on le fait aussi en développant des jeux de société avec Blanc Manger Coco pour parler de diversité, Festival Musique Paris Tétu en 2019 pour parler de diversité aussi, et aussi un think tank par exemple avec des entreprises françaises, 34 entreprises françaises, pour parler de best practice avec des DRH sur comment faciliter des problématiques d'inclusion et diversité en entreprise.
Un think tank.
C'est le nouveau, c'est la nouvelle plateforme Tétu.
Un think tank, pour qui ne connaît pas, de quoi s'agit-il exactement ?
Bon, en fait, c'est une sorte de club qui rassemble 34 entreprises, notamment des DRH, des patrons, des responsables de ressources humaines, pour partager des best practices sur finalement comment faire en sorte que des gens soient à l'aise au travail.
Des best practices, je vous traduis, c'est des meilleures pratiques.
Voilà, c'est exactement, c'est des bonnes idées, des simples à mettre en place pour faire en sorte que la parole se libère en entreprise. On est en retard en France par rapport au milieu anglo-saxon, notamment par rapport à l'Angleterre. Moi, j'ai vécu 8 ans, c'est ce que j'ai constaté juste avant de reprendre Tétu, et je pensais que c'était important de faciliter aussi la parole en entreprise. C'est pour ça que Tétu investit beaucoup dans le domaine.
Alors, les entreprises également investissent, il y en a 34, mais elles ont un abonnement à payer.
Oui, tout à fait. C'est un membership, un abonnement, pardon, pour participer à des dîners, à des conférences, recevoir des études. On organise aussi des réunions, des formations en entreprise pour ces mêmes entreprises. Donc, effectivement, elle paie un membership, ce qui nous permet un abonnement, pardon, ce qui nous permet d'investir avec de la ressource, des chefs de projet, puis de travailler plus de contenu pour ce projet.
L'abonnement va de combien à combien ?
Oui, c'est à entre 20 et 50 000 euros par an, fonction des entreprises.
La toute dernière entreprise entrante est France Télévisions. France Télévisions, avec laquelle Tétu s'est associé pour un clip de sensibilisation contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Clip diffusé sur les chaînes hertziennes. On écoute un extrait.
Au placard mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassée par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère.
Alors, on aura peut-être reconnu le texte de la chanson « Amour censure » de Hoshi, mais interprété pour l'occasion, et là aussi on aura peut-être reconnu la voix de Vanessa Paradis. Pourquoi ne pas avoir gardé simplement l'interprétation de la chanteuse Hoshi ?
Je pense que c'est la bonne nouvelle autour de ce film, c'est qu'il est pour la première fois diffusé par des internationales, il y a France Télévisions, et pour la bonne nouvelle aussi TF1 et Canal+, aujourd'hui vont diffuser ce spot, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et pour répondre à votre question, je pense que l'intention créative, c'était aussi de marier plusieurs mondes. Hoshi, c'est une magnifique chanteuse de la nouvelle génération avec un test texte très fort là que vous nous avez fait écouter, qui est juste génial. Et puis bah amener Vanessa Paradis, je pense que ça permet aussi de toucher un public plus large avec une voix qui est ultra connue, qu'on reconnaît en une seconde, et qui est diffusée depuis une dizaine de jours sur France Télévisions et aujourd'hui sur France Télévisions, Canal Plus et TF1, avec aussi l'aide de BNP et Mastercard.
Voilà, puis je précise, puisque je le sais, Oshi n'a pas été dépossédé, tout ceci s'est fait avec son accord. Une manifestation, on reste dans l'actu, devait être organisée ce samedi à Tours pour la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est le centre LGBTI de Touraine qui avait publié une story sur ses réseaux sociaux dans laquelle il était écrit que, je cite, « Toute personne blanche qui essaiera de s'incruster dans ce cortège se fera cordialement ou non dégager. Il y a eu un tollé, je ne vous apprends rien. Le centre LGBTI s'est justifié en évoquant une confusion avec l'initiative d'un collectif antiraciste de Tours. Mais le mal était fait. La manifestation a dû être annulée pour cause de menaces. Que pensez-vous de cet épisode ?»
Alors d'abord, c'est malheureux parce que la manifestation a dû être annulée, a fortiori la veille du 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie et toutes les LGBT-phobies. Je pense que, comme souvent avec les réseaux sociaux, le porte-parole de l'association qui organisait la manifestation a reconnu qu'il y avait une communication maladroite et un retweet un peu rapide sur la non-mixité dans le cortège. Et puis ça a été repris politiquement, localement, par l'extrême droite et aussi par d'autres médias. Donc ça part d'une maladresse de communication qui a été reconnue. Pour autant, ça justifie pas un tel déballement, une telle violence.
Un tel déchaînement.
Dans tes tubes.
Et selon vous, il aurait fallu maintenir la manifestation et braver le danger?
Je pense qu'il aurait fallu maintenir la manifestation, oui, tout à fait, ouais. Des zones non-mixité dans des défilés de ce style, ça a existé, ça existe toujours, il y a toujours des demandes. Voilà, je pense que c'est une maladresse de communication avant tout et malheureusement repris par l'extrême droite locale.
Il y a des demandes, mais est-ce que vous approuvez vous-même des zones de non-mixité dans les manifestations?
Bon, je pense que ça fait du sens, où il y a certaines catégories de LGBT, etc., qui demandent à être un peu plus visibles dans des cortèges. C'était le cas sur certaines manifestations de cortèges avec la présence de lesbiennes qui voulaient être un petit peu isolées, ou encore de trans. Ça peut se comprendre. Pour autant, je pense qu'avant tout, un défilé comme ça doit mettre en avant des valeurs de mixité. Donc c'est une maladresse de communication avant tout. Après qu'il y ait des zones non mixtes dans le cortège, ça me choque pas plus que ça.
On va revenir à des questions médias avec vous, Albin Servian. Vous avez relancé la revue Têtu et vous apprêtez à relancer un très célèbre mensuel. Je vais y arriver. Lequel? C'est vous qui allez nous le dire. À tout de suite.
Belle.
En compagnie d'Albin Servian, éditeur de la revue Têtu, que vous avez en quelque sorte relancé, c'était il y a 3 ans, on donnait le journal pour mort et désormais il vit plutôt bien. Et j'en viens à votre nouvelle acquisition. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Quel magazine allez-vous acheter, allez-vous racheter?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, comme sur Têtu, ce qui prime pour moi avant tout, c'est la qualité de contenu. Et moi, j'ai été bluffé par les équipes d'Opéra Magazine, donc qui est le magazine, le seul d'ailleurs en France, de référence des arts lyriques, qui est dirigé par Richard Martel, que j'ai rencontré il y a quelques mois. Et voilà, on a trouvé un terrain d'accord. Et suite à Têtu, il y a 3 ans, maintenant, c'est plutôt Opéra. Donc toujours du bon contenu, du contenu de référence sur les arts lyriques qu'on souhaite relancer. C'est un magazine papier pour le moment uniquement, qui sort 11 fois par an et que je souhaite digitaliser, diversifier, parce que moi je suis pas un grand amateur d'opéra. Je suis allé plusieurs fois à l'opéra, d'ailleurs la dernière fois je suis allé à l'opéra c'était avec Roselyne Bachelot pour Othello, avec Roberto Alagna.
Elle n'était pas encore ministre de la culture.
Elle n'était pas visite de la culture, elle m'a fait visiter les coulisses, c'était vraiment très sympa, puis elle m'a parlé beaucoup d'opéra, et moi j'ai trouvé, on a une bonne discussion, et ce que je trouve sympa aussi au travers de la reprise d'Opéra Magazine, c'est d'ouvrir ce monde un petit peu fermé, très codé, à des populations un petit peu plus larges, plus jeunes, voilà, donc c'est ça le projet Opéra Magazine, c'est le magazine de référence, il y a des fans, il y a 10 000 fans qui le lisent, on va dire, tous les mois, mais je pense qu'il y a matière à toucher plus de monde.
Ouais, quand vous disiez toucher plus de monde, on pense à la scène dans Intouchable où Omar Sy est mort de rire en voyant de l'opéra quelqu'un qui joue un arbre. Il trouve ça absolument ridicule, parce que si on n'a pas les codes, c'est vrai que parfois on peut trouver les choses ridicules. Juste un mot, vous parlez de Roselyne Bachelot, vous lui avez parlé de ce projet depuis qu'elle est ministre de la culture, et est-ce qu'elle vous a aidé, si oui?
Ouais, il me semble qu'elle est abonnée du magazine, donc je pense qu'elle accueille la nouvelle très positivement. Elle est très fan de Têtu, et ceci historiquement, elle était encore en interview dans le magazine il y a peu de temps. Bon, elle est fan d'opéra, vous le savez.
Non, je veux dire, pas là, mais oui, vous n'avez pas parlé avec elle de la relance par vous du magazine.
Ah non. Non, vous
croyez vraiment au modèle papier? Opéra Magazine, pardon de dire ça, c'est 3000 abonnés et tout au plus 10 000 numéros vendus par mois. Le point d'équilibre est à combien selon vous?
Oh, je pense qu'il faut atteindre dans les 5 000 abonnés, monter en diffusion à 15 000, 20 000 sur Opéra Magazine. Ouais. Ce qui compte avant tout, vous savez, c'est pas tellement le nombre d'abonnés et le nombre de numéros vendus en kiosque, c'est aussi toutes les activités qu'on peut développer autour, comme on l'a fait d'ailleurs sur Tétu. Alors, on va pas dupliquer ce qu'on a fait sur Tétu, bien entendu, mais voilà, on peut réfléchir à l'événement, à l'éducation, à des programmes sur l'art lyrique, par exemple. Donc c'est ça, un projet de diversification. C'est pas forcément la vente kiosque ou l'abonnement, même si moi je crois beaucoup au papier, comme pour Tétu, mais je crois beaucoup, alors désolé, je vais encore parler en anglais, mais je crois beaucoup au système de coffee table book. Vous voyez, c'est ces magazines qu'on a envie de poser sur une table de salon, hein, très concrètement, avec une belle iconographie, des belles images, des bons articles qu'on lit dans le temps long, qui permettent la réflexion. Et ça, c'est, moi, je crois dans cette presse. Vous voyez, c'est de la presse de qualité. Ouais. Ça commence par une prise en main, du bon papier, une belle icono. Voilà, et je pense qu'avec l'opéra, comme pour Tétu, ça peut fonctionner.
Il y aura de la publicité dans Opéra Magazine?
Il y en a déjà, ouais, tout à fait. Il y a des annonceurs fidèles, d'ailleurs, qui sont restés fidèles l'année dernière. Année difficile, Opéra Magazine a plutôt bien résisté, comme Tétu d'ailleurs. Donc oui, il y aura la publicité.
Mais je vous pose la question parce que sur le site de Tétu, on peut lire en bandeau éditorialement indépendant, financé par ses lecteurs. Il n'y a pas beaucoup de publicité dans Tétu.
Bon, il y en a beaucoup dans le magazine, beaucoup d'annonceurs fidèles. Je peux vous donner des chiffres. Pour Tétu, la répartition du chiffre d'affaires, c'est grosso modo 50% dans la diffusion, donc c'est les ventes de magazines et l'abonnement. 20% c'est la pub et le reste, le solde, 30% c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la partie entreprise et tout ce qu'on peut faire, par exemple quand on développe un festival de musique ou un jeu de société.
Alors vous appuyez beaucoup sur le développement digital, je reste au chapitre Tétu, mais il y a peu de vidéos, paradoxalement, sur le site de Tétu. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que, pardon de dire des choses comme ça, vous n'êtes pas encore très au point?
Non, c'est pas qu'on n'est pas au point, c'est que on a un challenge, on a une équipe qui est petite, hein, et Romain Burel, le directeur de la rédaction, fait un boulot de dingue, mais il y a 4 personnes dans la rédaction sur Tétu, c'est le cas d'ailleurs sur Opéra Magazine, il faut faire des arbitrages, c'est pas qu'on veut pas faire de vidéos, on en a fait, on a testé, ça fonctionne plutôt bien, mais pour Tétu est en forme, comme vous le disiez tout à l'heure, et si on est en forme, c'est qu'on fait aussi des choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la vidéo, au contraire. Mais c'est aussi pour ça qu'on a, j'ai bouclé une levée de fonds récemment, c'est pour continuer à investir, partager des ressources entre Opéra et Tétu et continuer à investir. La vidéo est un sujet de prédilection pour nous, mais pour le moment, on n'a pas pu le faire dans les conditions qu'on le souhaitait.
Alors sur le site, on peut trouver un clip consacré au foot et au rugby, un clip de sensibilisation réalisé par Fabio Toniente, qui a été diffusé avant tous les matchs de foot de ce week-end. On écoute.
Mais regardez les mecs là, il faut se mettre tomber, l'arbitre il siffle à chaque fois. Bah c'est pas du foot ça. On est chez les gonzesses.
Regarde bien le ralenti, on voit bien qu'il prend sa jambe d'appui. C'est net non?
Mais tais-toi. Tu vois bien que c'est une équipe de tapettes non?
Tiens Nono, tu me remettras un verre s'il te plaît. Des tapettes ça me donne soif.
Non laisse tomber le match. Ça
on n'est pas des fêlés.
Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot.
Albin Servian, selon vous, est-ce que ces clips de sensibilisation aident vraiment à changer les mentalités?
Ah oui, complètement. Moi, je l'avais pas vu en l'occurrence, mais j'adore en tout cas ce que j'ai entendu, la voix off. Nous, on l'avait fait il y a 2 ans, un peu dans la même veine avec Antoine Griezmann, qui avait, par l'intermédiaire de sa sœur, répondu extrêmement rapidement pour être en couverture de Tétu et s'élever contre l'homophobie dans les tribunes, dans les vestiaires et sur le terrain. On a aussi en parallèle signé un accord avec la Ligue nationale de rugby, avec Tétu qui forme 30 clubs de rugby en France. Des patrons de club, des coachs, des joueurs qui sont aussi associés à ces soucis-là. Donc moi j'adore ce style d'initiative et Tétu essaie d'en parler aussi au maximum.
C'est important
le sport, ça concerne beaucoup de gens en France.
Un dernier mot au sujet de 1-0 Média que vous dirigez. Parmi les actionnaires, on trouve le groupe Banijay, le plus gros groupe audiovisuel mondial. On trouve également un certain Marc-Olivier Fogiel qui est le directeur général de BFM TV. Est-ce que tous ces groupes de médias, toutes ces personnalités peuvent aider à faire la promotion de vos journaux? Comment vous voyez la chose? Ou est-ce que c'est totalement une activité indépendante?
Alors, petite précision, c'est IO Média. C'est
pardon,
pas
IO.
Évident à dire, mais c'est IO Média.
Vous avez raison.
Oui, alors effectivement, il y a des gens comme Banija Vivendi, Marc-Olivier, etc. Donc bien sûr, ça aide à parler du projet. Alors je pense surtout à Marc-Olivier qui a jamais été avare de commentaires positifs sur Tétu, notamment depuis la relance. Donc ça, c'est très sympa. S'agissant des autres partenaires actionnaires, là, je dirais qu'il y a une règle d'indépendance que vous connaissez, qui est claire. Donc, s'il y a moyen de faire des intros pour aider le projet, tant mieux. Mais ça s'arrête là, hein, généralement.
Merci beaucoup, Albin Servian. Le numéro 226 de Tétu est en vente au prix de 6,90 et le 172, le numéro d'Opéra Magazine, au prix de 7,90 € dans les kiosques, quand on trouve des kiosques. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, merci. Tout à fait autre chose, on va parler de télé-réalité, un phénomène de société qui a bien changé en 20 ans d'existence en France. On en parle avec le journaliste Martin Veil, auteur d'un doc télé-réalité, La Nouvelle Influence. Juste